Voilà, on peut commencer.
Donc le premier truc, c'est je m'appelle, je suis né, j'ai travaillé. Quoi.
D'accord.
Là, je vous laisse faire ex cathedra.
D'accord. Alors, je m'appelle Jean Esperne. Je suis né à Quimper en 1940. Et mes grands-parents étaient originaires de Trégourès. C'est relativement proche de Quimper, à 25 km environ. Et je suis rentré au papeterie Bolloré en 1971. Alors d'abord en tant qu'ingénieur au contrôle qualité, et puis progressivement, j'ai évolué dans différents postes en raison de l'évolution qui s'est passée, des évolutions qui se sont passées au niveau du groupe. En 1973, donc 2 ans après mon entrée au papeterie Bolloré, j'ai été nommé directeur du contrôle qualité, car le directeur du contrôle qualité de l'époque a été nommé directeur de l'usine de Troyes. Et puis, progressivement, l'activité papier pour condensateur diminuant, pour différentes raisons que je pourrais développer, le personnel du papier pour condensateur a été orienté vers la production de films pour condensateur toujours, parce que le film se développait un peu partout dans le monde et le papier, lui, décroissait régulièrement. Les gens ne voulaient plus, les producteurs de condensateurs ne voulaient plus du papier parce qu'il était plus difficile à mettre en œuvre, il coûtait plus cher et le film, lui, était plus performant et coûtait moins cher. D'où des reconversions pour le personnel, ça veut dire beaucoup de formations et beaucoup de plans également liés au départ en retraite, en pré-retraite de beaucoup de personnel qui avaient un certain âge et qui ne souhaitaient plus aller, comme ils disaient, à l'école pour apprendre la fabrication du film. Il est peut-être temps que j'arrête là, Jean.
Ouais. Voilà, donc on reprend, donc... Quelle formation vous avez eue? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à la... Comment vous avez été embauché chez Bolloré? Est-ce que vous avez fait une formation de papetier ou comment ça s'est passé?
Alors, c'est très simple. J'ai une formation d'ingénieur de l'École supérieure d'électricité de Paris et j'ai commencé à travailler à l'Électricité de France. Et au bout de 4 années, j'en ai eu un peu assez. Et donc, à l'époque, on pouvait trouver du travail très, très facilement. J'ai donc envoyé mon CV ici aux papeteries, et comme les papeteries à ce moment-là cherchaient un ingénieur de formation électrique de base, j'ai été reçu dans les jours qui ont suivi et finalement recruté parce que les papeteries Bolloré étaient en train de monter une usine de fabrication de films pour condensateurs. Et là, c'était une usine entièrement automatisée, avec ordinateur un peu partout pour faire fonctionner la machine. Et c'est le fait d'être électricien qui a pris le dessus et qui a fait que la direction a décidé de me recruter.
C'était qui le directeur d'établissement? C'était qui que vous a reçu?
Alors j'ai été reçu à la fois par deux personnes. D'abord le directeur du contrôle qualité, parce que le poste était basé au contrôle qualité comme ingénieur contrôle qualité, mais j'étais là en secours pour le cas où il y aurait eu des problèmes électriques à la mise en route de l'entreprise. Et donc le second qui m'a reçu, c'était le directeur des usines de Bretagne qui s'appelait Louis Garin.
Et là, vos débuts, ça vous a plu de rester chez Bolloré, quoi, je veux dire, vous avez... Il y avait une ambiance, il y avait un esprit
Au tout début, c'était un peu particulier parce que j'étais au contrôle qualité, une activité que je n'avais jamais exercée, mais c'était complètement différent d'Électricité de France parce qu'ici, il y avait une énorme autonomie, ce qui m'a d'abord surpris et évidemment qui m'a plu. Alors, je ne dis pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais je dis simplement qu'on a de l'autonomie, on fait ce qu'on veut ou ce qui paraît être le plus utile pour l'entreprise. Et donc, je n'ai pas eu l'intention de partir, malgré les difficultés qui ont commencé à apparaître dans les années suivantes en raison de la décroissance de l'activité papier pour condensateur.
Et donc ensuite, après la qualité, ça durait combien de temps le poste?
Alors ça s'est prolongé jusqu'en 75, parce que dans l'intervalle, en 73, le directeur du contrôle qualité a quitté. Il a été nommé directeur de l'usine de Troyes et on m'a confié son poste. Et en 75, lorsqu'il y a eu un changement au niveau de l'actionnariat, puisque le groupe Edmond de Rothschild est rentré dans la maison, le groupe Edmond de Rothschild a demandé à ce que des organisations soient faites entre le papier et le film. Et donc là, on m'a nommé directeur de production des usines papier d'Audet et de Kaskadec.
Et vous l'êtes resté jusqu'à...
Alors après, il y a eu différentes évolutions dans ma carrière, toujours chez Bolloré, et je suis resté jusqu'en 2000, date de mon départ à la retraite.
Mais 2000, vous étiez parti sur Paris après. Mais oui. Je veux dire, en tant que directeur de la production, vous êtes...
Ah, directeur de la production. Oui, oui, alors il y a eu directeur de la production de 75 jusqu'en, je ne sais plus quoi, 80... Je pense que ça devait être 83 par là, puisqu'il fallait, dans le cadre de la réorganisation des activités, il a fallu fermer l'usine papier d'Audet, ici où nous sommes, transférer une partie des activités d'ici vers celle de Sker, et comme le papier pour condensateur continuait toujours à décroître de manière féroce, on a profité de la création d'une nouvelle ligne de fabrication de films ici pour arrêter définitivement l'usine de Sker, avec l'idée de reconvertir les gens du papier pour condensateur qui venaient d'Audet et de ceux qui étaient à Sker vers le film, en leur faisant suivre une formation adaptée à la production de films pour condensateur.
D'accord, donc l'arrêt d'un côté, ça a été douloureux, ou ça s'est fait légèrement?
Alors, je vais vous dire que l'arrêt de l'activité papier, ça, c'est sûr, n'a pas fait plaisir aux gens quand on leur a annoncé l'événement. Parce que les gens pensaient que cette activité existerait à vie. Mais à force d'expliquer, de recevoir les gens, les représentants du personnel, de discuter dans les ateliers, de discuter avec les maris, les femmes, puisque beaucoup de femmes travaillaient aussi dans les ateliers, les gens ont fini par comprendre, surtout qu'on expliquait que l'avenir était au film. Et donc, ils ont accepté ça, ils ont accepté de se former. Et pour les gens qui partaient en pré-retraite, parce qu'à l'époque, il y avait des pré-retraites progressives fort alléchantes, si je puis dire, et d'autant plus alléchantes en plus que le président Vincent Bolloré avait accepté de majorer s'il fallait les indemnités de départ, eh bien tout ça, ça s'est fait, si je puis dire, dans la bonne humeur. Et les gens qui ne trouvaient pas d'emploi au film, on avait à deux reprises fait venir des cellules de reclassement pour aider les gens à rédiger des CV, à chercher une formation, bâtir un plan de formation pour eux. Et ces cellules de reclassement étaient chargées également dans toute la région de sillonner toutes les entreprises pour voir s'ils ne cherchaient pas à recruter, quitte à ce qu'on aide les entreprises qui auraient engagé du personnel de chez nous à les payer pendant leur temps de formation dans la nouvelle entreprise où ils allaient et à payer leur salaire pendant 3 à 6 mois, suivant le temps de formation nécessaire pour qu'ils soient capables de prendre le job dans l'entreprise qui les embauchait.
Donc ça, c'était en 83, donc 2 ans avant, Bolloré, il est arrivé.
C'était 83, et puis et je déborde également, parce que là, j'ai associé fermeture d'Audet, après extension vers Kaskadec. En fait, c'était 83, 80... Alors, fermeture de Sker, c'est 89, je crois.
D'accord. Mais 2 ans avant, en 81, Vincent Bolloré est arrivé.
Alors,
est-ce que vous étiez là le jour où il est monté sur la table Ah. Il a fait son discours.
Ah ben Vincent dit toujours que j'étais le premier à l'accueillir ici quand il est arrivé, ce qui est vrai. Et naturellement, comme vous dites, quand il est monté sur des palettes, c'est pas sur une table, palettes précisément, pour s'adresser au personnel, oui, j'étais là, absolument. Et en fait, les gens l'ont extrêmement bien accueilli. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'avant, comme partenaire dans les papeteries, il y avait le groupe Edmond de Rothschild. Et c'était un monsieur Henri Bernet qui, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, qui avait pris les rênes. Et les gens étaient extrêmement contents que ce soit un Bolloré qui reprenne les rênes. Donc déjà, rien que de leur dire que Vincent Bolloré reprenait les choses en main, ça leur donnait confiance pour le futur.
Et donc de la période de Vincent Bolloré, est-ce que la politique sociale a changé ? Elle était devenue unique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué cette époque jusqu'à maintenant ?
Oui, de la politique sociale, absolument, tout a complètement changé, à mon avis, parce que quand on est arrivé ici, quand je suis arrivé ici, j'étais avec quelques jeunes autres ingénieurs, on trouvait que l'information, il n'y en avait pas. Donc, si on voulait être informé de ce qui allait se faire, des résultats de l'entreprise notamment, tout était un petit peu secret, tout était un peu caché, on ne communiquait pas sur les chiffres. Donc, si on voulait en savoir plus, il fallait aller à la pêche. Alors ça, c'est un truc qui ne me plaisait pas du tout. Donc, après l'arrivée de Vincent, lui, au contraire, c'était complètement l'opposé. Et il disait qu'il faut que les gens travaillent en connaissance de cause. Par conséquent, tous les livres de compte étaient ouverts aux représentants du personnel et aux experts comptables du comité d'établissement. Donc, c'était libre accès à tout ça. Alors ça, c'est une chose. À côté de ça, il y avait la communication, la discussion avec les gens. Chaque fois que Vincent Bolloré venait ici, et c'était souvent, il faisait le tour des usines régulièrement, des ateliers, et il allait discuter avec tout le monde, serrant les mains des uns et des autres, discutant avec eux sur leur famille, leur santé et tout. Ce qui fait qu'il a su kidnapper, si on peut dire ça comme ça, la sympathie, exactement, et la confiance, voilà, la confiance. Les gens avaient confiance en lui, et ça a continué comme ça, et voyant comment il opérait, puisque j'ai été, après la production, directeur des ressources humaines, j'ai appliqué les mêmes techniques, la même façon de faire. Et puis, j'espère qu'après mon départ, ça a continué comme ça, parce que c'est la seule façon, à mon sens, de réussir, et c'est de mettre en valeur le personnel, de ne rien lui cacher, chaque fois qu'on peut tout dire. C'est parfois des choses qu'on ne peut pas dire, forcément. Mais la technique, c'est quand même bien de ne pas prendre des gens pour des imbéciles, ce qui peut-être était un peu fait autrefois, par l'ancienne direction, qui n'attachait pas suffisamment d'importance au personnel. Il y avait ceux qui décidaient, si on veut, et ceux qui exécutaient.
C'est qui a eu l'idée de la prime des 1 000 francs et comment c'était utilisé, en fait
Alors, le crédit des 1 000 francs, ça, c'était toujours... C'est une idée du chef, ça. C'est-à-dire de Vincent. Vincent Bolloré avait eu, je ne sais pas comment ça lui était venu, mais toujours est-il qu'il avait dit pour motiver les gens, pour intéresser les gens, eh bien, accordons un crédit de 1 000 francs aux gens, et avec ce crédit de 1 000 francs, ils pourront faire ce qu'ils veulent du moment que ça améliore la performance de l'entreprise. Ça n'était pas pour aller faire un voyage, je ne sais pas où, moi, aux Açores, à la Martinique ou à Venise, c'était pour dépenser son argent dans l'entreprise pour améliorer les performances.
Il y en a quoi comme exemple ?
Comment ?
Comme exemple d'utilisation.
Comme exemple d'utilisation, c'est une... Alors là, c'est un peu une colle parce que je n'ai pas d'exemple en tête tout de suite, là.
Si le vélo de Mankero...
Elle ne l'a pas dit ?
Non.
Bon, alors
elle a donné un autre exemple.
Ah oui, oui.
À Cascadec aussi, mais elle avait donné un autre exemple.
Ah ben alors, je peux vous en donner deux, mais il y en a un qui n'est pas très original. Alors, je sais qu'il y a un qui. C'était un cadre qui voyageait beaucoup, c'est un commercial, et qui avait demandé à ce. Enfin, qui avait demandé, oui, parce qu'il fallait faire une demande quand même. Hein. Et la direction disait oui ou disait non, suivant que ça restait dans le cadre de l'entreprise ou non. Il avait demandé un dictaphone, parce que ça lui permettait, quand il allait en clientèle, de noter tout de suite ce qu'il y avait, quel était le problème, ce qu'il y avait lieu de faire pour régler la situation. Et quand il revenait, il donnait ça à sa secrétaire et le compte-rendu était quasiment tapé. Et un autre exemple, alors, qui était beaucoup plus original, un ouvrier d'entretien, ça se passait à l'usine de Cascadec, qui est une usine tout en longueur, puisqu'elle longe la rivière Isole. Et lui, il était mécanicien, et lorsqu'on lui demandait d'intervenir à un bout de l'usine, alors que son atelier était à l'opposé, complètement à l'opposé, eh bien, il s'est dit, mais pourquoi, dans mon crédit 1000 francs, je demanderais pas un vélo? Alors évidemment, on lui a octroyé le vélo, parce que c'était une idée originale, et quand on l'appelait, il sautait sur sa bicyclette, avec sa caisse à outils, et filait vers l'endroit où se trouvait la panne. Voilà.
Donc, là, vous avez pris le poste de RH de Bordeaux-Bretagne, sans doute, et ensuite Paris ou...
Oui.
Et là, quand vous étiez RH du groupe, l'entreprise, elle devait être en pleine diversification, avec des acquisitions, Delmas, oui. Et tout ça. C'était quoi votre boulot, là, justement, pour ces acquisitions?
Eh bien, au début, quand Vincent est arrivé, j'ai travaillé très proche avec lui, parce qu'il était... axé sur la papeterie notamment, puisque c'est là qu'étaient les problèmes. Donc, chaque fois qu'il venait ici, j'étais pratiquement tout le temps à côté de lui. Et donc, on a travaillé sur les problèmes sociaux et humains. Ensuite, il a fait les papeteries, on fait un peu de croissance externe en rachetant les papeteries Braunstein et Job. Donc ça, c'était l'usine de le Tonon-les-Bains, l'usine chez Job, il y avait l'usine d'Angers, qui faisait du papier à cigarette. Puis, dans la foulée, il a acheté également papeterie Job. Ça veut dire une usine à Toulouse, une usine à Perpignan et l'autre à Saint-Giron. Et donc là, il m'a demandé de l'accompagner dans ses achats. Parce qu'au niveau ressources humaines, vous savez très bien qu'il y a des contraintes. On ne fait pas, il ne suffit pas de faire un carnet de chèques et tout va bien. Donc, il fallait faire des réunions avec le comité d'entreprise, comité central d'entreprise, aller les voir, les revoir. Donc, mon job consistait à l'époque, notamment à Toulouse, où c'était un peu plus dur. J'étais à Toulouse à une certaine époque pendant toutes les semaines, pour rencontrer le personnel, pour essayer de les raisonner, de les calmer, de leur expliquer les choses, ce qu'on allait faire, comment on travaillait dans le groupe Bolloré au niveau des relations humaines et sociales. Voilà, ça, c'est un exemple. Mais après, c'était avant plus exactement, à Tonon-les-Bains, c'était un peu la même chose. J'y allais souvent pour rencontrer les représentants du personnel, le personnel, et de la même manière, leur expliquer comment on travaillait au niveau social et humain dans le groupe Bolloré. Et après, comme vous l'avez dit, il y a eu la croissance externe au niveau de l'achat de Delmas. Et là, Vincent m'a demandé carrément, pour les raisons de commodité, pour lui sans doute, pour moi peut-être un peu moins, parce que j'étais installé à Quimper, d'aller auprès de lui à Puteaux. Donc, ce que j'ai fait, et toute cette affaire a duré 9 ans. Mais il n'y avait pas que Delmas, bien sûr, il y avait toutes les autres activités du groupe Bolloré qui m'étaient rattachées en tant que ressources humaines et sociales. Ça voulait dire beaucoup de réunions avec le personnel. Ça, des réunions avec le personnel, compte tenu de la diversification importante qu'il y a eu, ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
Et la fondation de la dernière chance, c'est né lorsque vous étiez en activité ou c'est beaucoup plus récent?
Alors non, c'est la fondation de la deuxième chance. Est né en 1988. Je réfléchis un petit peu. Oui, c'est ça, 1988. C'est-à-dire qu'avant de partir à la retraite, parce que j'avais dit à Vincent que je souhaitais quitter l'entreprise, Et il m'avait dit, Jean, bon, d'accord, mais avant de partir, il faut qu'avec Michel Giraud, vous mettiez en place la fondation de la deuxième chance. Donc, Michel Giraud, qui avait un carnet d'adresses extraordinaire.
Michel Giraud était le ministre.
Oui, l'ancien ministre, et puis conseiller. Alors, attendez, qu'est-ce que. Conseiller général d'Île-de-France. Et ancien ministre, absolument. Donc, Michel Giraud avait donc un carnet d'adresses extraordinaire, ce qui lui a permis de trouver des partenaires de la fondation. Et moi, sur le plan plus modeste, j'ai été chargé de rédiger les procédures à mettre en place pour cette fondation, ce que j'ai fait. Et ensuite, 2 ans plus tard, quand je suis parti, ben, la fondation, elle tournait, elle ronronnait, et puis elle s'est développée petit à petit. Et aujourd'hui, donc, ça lui fait, depuis 1998, jusqu'à 2013, ça lui fait, je ne sais plus combien d'années, il faut faire la soustraction, c'est tout.
15 ans.
Oui, c'est ça.
Mais quelle est la place de Bolloré, là-dedans, fait quoi?
Alors, celui qui a créé la fondation, c'est bien Vincent Bolloré. L'objectif étant d'aider les gens en grande difficulté ou sur le point de l'être, au bord du gouffre, à trouver une situation qui leur permette soit de trouver un emploi, soit de suivre une formation qui soit reconnue et qui leur permette de trouver un emploi rapidement. Alors là, on peut citer des exemples, des gens qui suivent une formation particulière. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de demandes d'aide pour la formation d'aide-soignante, ou bien d'ambulancier ou d'ambulancière, ou bien de passer le permis simple ou poids lourd, simple pour avoir une activité lorsque les gens n'ont pas d'autres moyens de transport. Donc ça leur permet de trouver un emploi assez loin de leur domicile sans difficulté. Ou bien ça peut être aussi reprise une petite entreprise. Enfin, quand je dis entreprise, ça peut être une petite épicerie, une petite vente d'objets sur les marchés. Ça peut être aussi création de produits, genre crêperie, genre produits artisanaux, etc.
Okay, donc ça n'a rien à voir avec un contrat de travail chez Bolloré, quoi. Je veux dire,
non.
Beaucoup plus large. C'est,
oui, oui.
C'est un projet de société, enfin de d'aide sociale.
Oui, exactement. Alors ça s'adresse, pardon. Ça s'adresse à des gens qui ont entre 18 ans et 60 ans, parce que on considère que moins que 18 ans, on est encore étudiant ou écolier ou lycéen. Au-delà de 60, en principe, on peut faire valoir ses droits à la retraite. Et donc, ça s'adresse à cette catégorie de personnel. Mais il faut que ce soit validé, parce qu'il ne suffit pas de s'adresser à la fondation et de dire « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour faire ceci ou cela ». Tout ça, c'est structuré, organisé et validé par différents organismes que je peux développer si ça vous intéresse.
L'idée générale, quoi. Ouais.
Alors, on commence par... quand il y a... D'abord, il faut évidemment faire de la publicité, si je puis dire, sur la fondation de la deuxième chance pour que les gens sachent que ça existe et ce que c'est. Une fois qu'ils savent ça, il leur faut un imprimé, ils rédigent un imprimé pour expliquer leur situation. Cet imprimé vient dans une cellule à Puteaux où il y a une douzaine de personnes qui suivent les dossiers, qui les étudient et qui les adressent à des instructeurs qui sont un peu partout sur le territoire en France, puisqu'il y a quand même, il doit y avoir maintenant une soixantaine de sites qui peuvent recevoir des candidats, et ces candidats sont entendus par les instructeurs pour leur permettre de rédiger un rapport d'instruction sur lequel ils indiquent la véracité de ce que disent les candidats, pour donner une appréciation sur ce que vaut le dossier. Et ce dossier est ensuite adressé au comité d'agrément, ce qu'on appelle le comité d'agrément, qui valide le dossier, qui dit oui ou qui dit non, ou qui demande des informations complémentaires avant de trancher. Et si c'est oui, bien sûr, la somme sera octroyée au candidat pour son projet. Mais évidemment, il y a quand même des limites. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 3 500 euros en moyenne en moyenne sur les différents projets qui sont examinés lors d'une même séance. Ça veut dire que certains ont un peu plus que 3 500, suivant la valeur du projet, d'autres ont un peu moins.
On se rappelle que le grand-père de Vincent Bolloré, il crée la cité ouvrière de Kerana, qui ouvrait l'école, qui l'embauchait une sage-femme pour accoucher les mères de la famille de la commune.
Oui.
Il n'y a pas un parallèle entre les deux politiques sociales.
Ben, on peut peut-être faire le rapprochement, mais moi je me souviens que pendant tout le temps où j'étais à ses côtés, on recevait pas mal de demandes de différents organismes, de toutes sortes, depuis un club de football jusqu'à des gens en difficulté, des soutiens d'un type qui faisait de la moto en compétition, et on avait toutes sortes donc de demandes pour ça, aidez-moi à cela, aidez-moi à ceci, j'ai besoin de 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, et à la fin... Vincent dit, on ne sait plus quoi faire de ces demandes. En fonction de quoi on dit oui, en fonction de quoi on dit non, et quel montant. Moralité, un jour, il faut qu'on organise tout ça, qu'on fasse quelque chose de structuré, et je pense que c'est à force d'avoir réfléchi là-dessus, et qu'il s'est dit, on va créer une fondation. Ce qui, au moins, avait le mérite d'être structuré, organisé, et ça rendait service à bien des gens, parce que, je vous assure, les dossiers, je ne les vois pas tous, sauf pour le Grand Ouest, puisque je coordonne tout le Grand Ouest, eh bien, on voit de ces choses qu'on a du mal à imaginer. Hein. Des misères absolument épouvantables. Épouvantables.
Mmh.
Oui.
Donc, finalement, la retraite, c'est une belle continuation, quoi.
La retraite, c'est mais c'est beaucoup plus cool et calme qu'auparavant. Simplement, il y a la fondation, donc où j'assure cette coordination au niveau Grand Ouest. Mais Grand Ouest, je ne l'ai pas dit, mais ça démarre au Havre, ça descend jusqu'à La Rochelle, en passant par quoi encore on descend Nantes évidemment. On passe par Caen, on passe par Brest, on passe par Quimper naturellement. Et puis, j'oublie Cognac, vous voyez, c'est ça le Grand Ouest. Donc, ça donne l'opportunité de voir beaucoup de dossiers délicats, difficiles et tout ce qu'on veut.
On fait une pause ou... C'est bon, là, c'est fini. Enfin, on a...
Vous en savez...
La liste des questions, mais je pense que...
Vous en savez beaucoup.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure... Il y aurait tellement de choses à raconter en plus.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et puis Janine, comme on disait tout à l'heure, elle en sait encore plus que moi, parce qu'elle a vécu combien d'années de plus que moi. Déjà, je suis parti 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis parti, et elle est rentrée en 67. 67, oui. Ouais. Moi, je suis rentré en 71. Et puis Janine, elle a commencé au laboratoire du contrôle qualité, à Sker, où son père était chef du labo. Ouais. Donc... elle en a fait des postes. Hein. Après, elle était au bureau de la... Non, mais j'ai fait 29 ans de Bolloré. C'était presque une pourresse, surtout que c'était dans les années difficiles. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme... Alors, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais pour les jeunes qui sont arrivés après nous, c'était quand même... On avait bien nettoyé le terrain, quand même. C'est quand même plus facile. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein.
Vous avez connu Michel...
Oui, absolument. Oui, oui.
Et les Rothschild.
Michel Yves est arrivé quand je suis arrivé aussi. Il a dû arriver à peu près la même période, vers les années 71, je pense.
Et les générations précédentes des Bolloré, vous avez un peu vu, connu
Moi, j'ai très bien connu Gonel. Là-bas, on se réunissait là-bas autour du petit machin. quand je venais le voir, parce que il aimait bien parler un peu du passé, et il m'invitait de temps en temps à prendre un petit verre avec lui. Uh-huh. Bon, donc, oui, je venais, oui.
Au manoir, ici.
Ici, oui, absolument.
Et le...
Michel Bolloré, le père de Vincent.
Donc il y a René Bolloré, l'aîné, et oui. Ensuite Michel.
Ah, Michel Bolloré, ben, j'ai très bien connu, puisque quand j'étais embauché chez Bolloré, la première fois que je suis allé à Paris, il m'a reçu, parce que étant au contrôle qualité, le contrôle qualité à l'époque n'était pas organisé comme ça se fait maintenant dans les entreprises, le contrôle qualité était directement rattaché au président, parce que ça rigolait pas, hein, la qualité à l'époque. Et donc, il m'a tout de suite reçu, quand je suis allé à Paris, j'étais reçu dans son bureau, et puis il m'a dit, bon, alors, on ne disait pas Jean, ou Paul, ou Pierre, ou je ne sais pas quoi à l'époque, on disait monsieur, monsieur. Il m'a dit, bon, monsieur Espern, la qualité, vous la tenez. C'était sérieux, hein.
Mais vous n'avez pas fait de bateau avec lui?
Alors, avec lui, non, mais avec Benahel, oui.
Ah oui, du bateau, ça, au Glénan.
Une sortie au Glénan, voilà. Oui, oui.
Et Pompidou, qui était ami de la famille de Michel.
Oui. Ah ben lui, j'ai pas eu l'occasion de le voir non plus. Ouais. Non, non. Non, il est à Begmeil, où il est même au manoir de, je sais plus comment ça s'appelle là, à Forêt-Fouenant. Ah. Ouais.
On arrête le supplice.
C'est fini le supplice.
Ça a duré combien de temps?
Là, ça a duré, donc on était à 60, ouais, 40 minutes.
40 minutes, c'est bien. Bon, mais là, vous faites des extraits, vous n'avez pas tout dire. Ça n'intéresse pas beaucoup de gens, ce que je vous ai raconté là.
Ah, si, si.
Vous faites des extraits, puis c'est bon.
Bah, bien sûr. Ouais.
Très bien. Bon, ben voilà. Donc, tout va bien ?